VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du vendredi 12 janvier 2018, en direct de Washington, Idrissa Seydoulia et Anne Albertson. Nous commençons par les titres.
En Côte d'Ivoire, verdict au procès des gendarmes et civils accusés de complot contre le président Alassane Ouattara en décembre 2012.
En République démocratique du Congo, la Conférence épiscopale nationale dénonce une campagne contre l'Église catholique et sa hiérarchie.
Au Congo-Brazzaville, arrestation d'un officier soupçonné d'avoir tenté de renverser le régime du président Denis Sassou Nguesso.
Nouvelle controverse à Washington, le président américain Donald Trump accusé d'avoir usé de termes injurieux sur Haïti et l'Afrique en parlant hier de l'immigration.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
En Côte d'Ivoire, le verdict est tombé hier soir dans le procès des gendarmes et civils accusés d'avoir voulu renverser en décembre 2012 le président Alassane Ouattara. Le principal accusé, le commandant Jean-Noël Abéi, écope de 10 ans de prison. D'Abidjan, les précisions de notre correspondant Georges Ibrahim Tunkara.
Dans le verdict rendu ce jeudi à 23h GMT, la cour s'est montrée clémente, alors que le parquet général avait requis la prison à vie à l'encontre des 12 prévenus qui comparaissaient. La cour a plutôt prononcé la relaxe pure et simple pour 8 d'entre eux, tous des civils. En revanche, elle a retenu 10 ans de prison à l'encontre du commandant Jean-Noël Abéi et du maréchal des logis, Félix Plat, ainsi que de 2 autres co-accusés, un gendarme et un policier. Les 4 prévenus sont accusés de complot et d'atteinte à la sûreté de l'État. Pour la Cour, il n'y a pas de doute, les faits sont établis. Le commandant Abéi a reconnu lors de ce procès que pendant son exil au Ghana, il a participé aux réunions d'une plateforme militaire initiée par Kone Katina, porte-parole de l'ancien président Laurent Gbagbo, et qui projetait de renverser le pouvoir du président Ouattara. L'opération était programmée pour le 23 décembre 2012, mais a finalement été un échec. Si la partie civile dit prendre acte de ce verdict, l'avocat de Jean-Noël Abéi ne cache pas quant à lui sa déception et annonce qu'il va dès ce vendredi se pourvoir en cassation. Jean-Noël Abéi, ancien commandant du groupement d'escadrons blindés du camp de gendarmerie d'Agban, est considéré comme l'un des piliers de l'appareil sécuritaire de l'ex-régime de Laurent Gbagbo. Arrêté en février 2013 à Accra au Ghana et estradé à Abidjan, il purge déjà une peine de 5 ans de prison pour désertion. Georges Ibrahim Tunkara, Abidjan, VOA Afrique.
En RDC, la Conférence épiscopale nationale du Congo dénonce une campagne d'intoxication, de désinformation et de diffamation orchestrée, selon elle, par des responsables des institutions de la République contre l'Église catholique et sa hiérarchie. La CENCO l'a fait savoir hier à Kinshasa. Les détails avec Thierry Kamboundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Cette campagne vise particulièrement le cardinal Laurent Monsengo, considéré à tort comme l'instigateur des actions visant à déstabiliser les institutions en place et à vouloir s'emparer du pouvoir, souligne le communiqué des évêques catholiques, lu par leur secrétaire général, l'abbé Donatien Cholet. La Conférence épiscopale nationale du Congo rappelle également que les prises de position de l'Église s'inscrivent bien dans sa mission. Aux prises de position de la CENCO, certains opposent le principe de laïcité de l'État congolais. L'Église catholique a bien le droit de porter un jugement moral, même en des matières qui touchent le domaine politique, quand les droits fondamentaux de la personne ou le salut des âmes l'exigent, soulignent les évêques, qui dénoncent par ailleurs toute tentative de division de l'épiscopat catholique orchestrée à des fins politiciennes et appellent au respect des droits aux manifestations pacifiques ainsi qu'à la liberté des cultes garantis par la Constitution de la République démocratique du Congo. Kinshasa, Thierry Kamboundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Nous aurons en seconde partie une interview avec le porte-parole de la CENCO, l'abbé Donatien Cholet.
En République du Congo, interpellation d'un officier de l'armée proche du président Denis Sassou Nguesso, soupçonné d'avoir tenté de renverser le régime. Le point avec Yakuba Ouédraogo.
Le général Norbert Dabira a été interpellé mercredi par la police. Il lui est reproché d'avoir tenté de renverser le pouvoir en 2017, sans plus de précision. Originaire de la même région que le président Denis Sassou Nguesso, le général Dabira est un ancien inspecteur des forces armées. Il a aussi dirigé le haut commissariat chargé de la réinsertion des ex-combattants. Son interpellation intervient pendant que des opposants, accusés de troubles à l'ordre public et d'atteinte à la sûreté de l'État, sont en détention depuis plusieurs mois sans jugement. Parmi eux figurent le général Jean-Marie Michel Mokoko, ancien chef d'état-major de l'armée, et l'ancien ministre André Okombi Salissa. Ils ont tous deux été candidats malheureux à la présidentielle contestée de 2016. Ils pourraient être jugés au courant du premier trimestre 2018.
Un avocat représentant plusieurs séparatistes anglophones camerounais a assuré que ces derniers avaient bel et bien été arrêtés par les services de renseignement nigérians et qu'ils étaient détenus dans ce pays voisin. Abdourahmane Dia.
Selon l'avocat Femi Falana, le président du mouvement séparatiste anglophone au Cameroun, Sissoukou Ayoub Tabé, et 9 de ses partisans ont été arrêtés pendant une réunion la semaine précédente à Abuja. Il précise que les agents du service de la sécurité d'État ont fait irruption dans l'établissement, les ont arrêtés et les ont amenés vers une destination inconnue. Un responsable des services de renseignement nigérian a démenti dimanche cette affirmation. Le ministre nigérian des Affaires étrangères a laissé entendre qu'ils étaient simplement convoqués dans le cadre d'une enquête sans élaborer. L'avocat Femi Falana réclame que ses clients soient libérés, jugeant leur détention illégale, le cas échéant les inculper dans un délai de 48 heures. Selon les Nations Unies, plus de 15 000 personnes ont fui le Cameroun pour se réfugier au Nigeria à cause de la répression des forces de sécurité contre des militants ou sympathisants supposés indépendantistes.
Affrontement entre agriculteurs et éleveurs dans le centre du Nigeria. 73 personnes ont été enterrées hier, d'après le gouverneur de l'État de Benoué. Des dizaines de milliers de personnes, toutes vêtues de noir, se sont rassemblées hier à Makourdi pour assister à une cérémonie avant l'enterrement des victimes. Quelques 80 personnes ont été tuées depuis le début de l'année dans des violences entre des éleveurs en majorité musulmans et peuls et des agriculteurs chrétiens.
À Madagascar, l'élection présidentielle se tiendra entre le 25 novembre et le 25 décembre prochain, mais la commission électorale n'a pas donné de date précise, Eric Manirakidza.
Le président de la CENI, Eri Rakotomanan, a déclaré qu'il revient au gouvernement de déterminer la date du scrutin. Il a seulement indiqué que cette présidentielle se déroulera entre le 25 novembre et le 25 décembre de cette année. La Constitution stipule que la date de la présidentielle est déterminée au moins 30 jours et au plus 60 jours avant la fin du mandat en cours, qui doit prendre fin le 25 janvier 2019. Le président sortant, Eri Rajoan Rimampianin, n'a pas encore dit s'il veut ou non briguer un second mandat. Marc Ravalomanan et André Rajoel, les deux anciens présidents rivaux, se jettent dans la course, chacun voulant prendre sa revanche sur l'autre. Tous deux avaient été empêchés de participer au scrutin de 2013. Marc Ravalomanan a été renversé en 2009 par le maire d'Antananarivo, André Rajoel, qui a assuré une transition jusqu'en 2014. L'arrivée au pouvoir de Eri Rajoan Rimampianin a mis un terme aux crises politiques à répétition sur la Grande Île.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Donald Trump a stupéfié hier des parlementaires lors d'une réunion sur l'immigration à la Maison-Blanche en qualifiant Haïti et les nations africaines de pays de M, expression scatologique. Selon le Washington Post, le New York Times et CNN, M. Trump s'est demandé, je cite, « Pourquoi est-ce que toutes ces personnes de ces pays viennent ici ? Et pourquoi pas de pays comme la Norvège dont il avait rencontré la première ministre la veille ?» En réaction aux questions des médias, dont la VOA, le porte-parole de la Maison-Blanche, Raj Shah, a publié un communiqué disant que le président américain n'acceptera qu'un accord sur l'immigration qui traite adéquatement du système de loterie pour la carte verte et du regroupement familial, deux programmes qui, selon M. Shah, sont préjudiciables à l'économie et permettent l'entrée de terroristes dans le pays. Mais il n'a pas démenti spécifiquement les informations selon lesquelles M. Trump aurait usé de ces termes grossiers contre Haïti et l'Afrique. Réaction négative de parlementaires démocrates et républicains hier soir.
D'autre part, le président Trump a laissé entendre hier qu'il avait de bonnes relations avec le leader nord-coréen Kim Jong-un, malgré leurs récents échanges sur qui des deux avait son doigt sur le plus gros bouton nucléaire. Dans une interview au Wall Street Journal, M. Trump a dit « J'ai probablement une très bonne relation avec Kim Jong-un. J'ai des relations avec des gens, je crois que cela vous surprend. » Quand nos confrères lui ont demandé s'il avait parlé à Kim, Donald Trump a répondu « Je ne veux pas faire de commentaires à ce sujet. Je ne dis pas que je l'ai fait ou que je ne l'ai pas fait. »
Par ailleurs, on s'attend à ce que M. Trump accroisse les sanctions contre l'Iran dans les prochaines heures, sans aller cette fois encore jusqu'à réimposer les sanctions qui visaient à forcer le régime de Téhéran à renoncer à son programme nucléaire. C'est ce que disent plusieurs agences de presse. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Eric Manirakiza.
Bangui bénéficie d'une annulation de dette de 30 millions de dollars. Cette dette est issue de prêts consentis par la Chine entre 2001 et 2005. L'échéance de remboursement était fixée à 2015. En 2017, Pékin a fait don de plusieurs matériels logistiques militaires à Bangui. Le gouvernement du Zimbabwe a décidé de céder ses actions détenues dans 24 des 92 entreprises parapubliques dans le pays. Objectif, compenser le déficit budgétaire de près de 2 milliards de dollars, représentant plus de 11% du produit intérieur brut en 2017. La plupart des entreprises publiques et parapubliques enregistrent des pertes depuis plusieurs années. En 2016, 38 de ces entreprises ont subi des pertes d'environ 270 millions de dollars. Le géant américain de la distribution Walmart a augmenté le salaire minimum de plus d'un million d'employés à 11 dollars l'heure. Il va aussi verser à ses employés une prime ponctuelle pouvant aller jusqu'à 1000 dollars et va élargir les programmes de congés parentaux et de maternité. American Airlines, AT&T, Wells Fargo l'ont fait au cours des dernières semaines. Walmart affirmait que la réforme des impôts adoptée en décembre a rendu cette hausse possible.
À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Voilà, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Le Barça corrige le Celta Vigo et se qualifie en quart de finale de la Coupe du Roi.
Tenu en échec à l'aller, un but partout, le FC Barcelone a corrigé le Celta Vigo hier soir. 5-0 en huitième de finale retour de la Coupe du Roi. Ce match s'est joué en 30 minutes pour les Blaugrana qui menaient déjà 4-0. À noter le doublé de Lionel Messi.
Après le départ de Coutinho pour le Barça, Liverpool cherche à faire venir dès ce mois de janvier le milieu offensif de Leipzig, Naby Keita.
Le quotidien Bild croit pouvoir affirmer que Liverpool est prêt à payer 15 millions d'euros pour un transfert immédiat du Guinéen de 22 ans, en plus des 65 à 75 millions selon les bonus déjà inclus. L'opération pourrait d'autant plus tenter le club allemand que Keita a visiblement déjà la tête ailleurs. Brillant la saison dernière, le Guinéen est passé à côté de plusieurs rencontres cette saison et n'a pas le rayonnement qui lui avait permis de mener son club à la deuxième place de la Bundesliga en juin dernier.
La cinquième édition du championnat d'Afrique des Nations débute demain au Maroc.
Le CHAN 2018 se déroule jusqu'au 4 février au Maroc. Le tenant du titre, l'équipe de la République démocratique du Congo, est absente du tournoi. Cette phase finale s'annonce donc ouverte, comme nous l'explique pour VOA Afrique Amine Birouk sur place à Casablanca.
Samedi, sur la pelouse du complexe Mohamed V de Casablanca, la sélection du pays hôte affrontera la Mauritanie. Les Marocains comptent dans leur effectif des joueurs rodés aux joutes continentales, y compris 6 éléments du Wydad, récent vainqueur de la Champions League. En face, les Mourabito n'aborderont ce premier match sans pression particulière. En effet, les protégés du français Corentin Martins sont en gros progrès, comme en atteste leur qualification au détriment du Mali. Toutefois, la logique voudrait que les Marocains puissent faire honneur à leur statut de pays organisateur. D'ailleurs, le comité d'organisation locale table largement sur une grosse prestation des Lions de l'Atlas pour pouvoir drainer le maximum de supporters sur les quatre terrains où aura lieu la compétition. Un pari que les responsables du CHAN comptent relever, de façon à ce que cette cinquième édition soit une belle vitrine pour le royaume chérifien. À 3 mois de l'annonce de la FIFA, du nom du pays qui aura l'honneur d'organiser le Mondial 2026. Depuis Casablanca, Amine Birouk pour VO Afrique.
Merci Amine, et on finit évidemment Idrissa avec vous, la NBA, le championnat de basket nord-américain. Les résultats de la nuit.
Les Boston Celtics ont battu les Philadelphia Sixers 114 à 103. Les Cleveland Cavaliers ont, eux, succombé aux Toronto Raptors 133 à 99. Et les Los Angeles Clippers et Sacramento Kings 121 à 115.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Avec vous, Idrissa Sédoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République démocratique du Congo, une délégation de l'épiscopat catholique a rencontré le président Alpha Condé, président en exercice de l'Union africaine, mais aussi le président Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville, qui dirige la conférence internationale des Grands Lacs. Eddie Isango a interviewé le porte-parole de la CINCO, l'abbé Donatien Chollet.
Les évêques sont allés rencontrer le président Alpha Condé, président de la Guinée-Conakry et de l'Union africaine. Ils ont pensé utile rencontrer le président de la République du Congo, qui est aussi président de la conférence des pays des Grands Lacs. C'est dans le cadre de la coopération internationale. Les évêques sont convaincus que les amis, les voisins de l'Union africaine peuvent apporter une aide au peuple congolais dans la perspective de la recherche de solutions à la crise.
Est-ce que ces rencontres pourraient avoir un impact sur les actions menées par l'Église catholique, notamment cette campagne des sons de cloches, mais aussi les mouvements des laïcs?
Ce qu'on attend du président Sassou, c'est avec les autres, échanger avec leurs collègues pour qu'on arrive à une solution. Pour nous, la solution, c'est avoir des élections comme prévu dans le calendrier en 2018, mais dans les bonnes conditions, c'est-à-dire un climat décrispé, des élections qui ne vont pas être contestées, mais la nécessité de la redynamisation de la CENI, comme c'est voulu dans l'accord.
Toutes les parties congolaises semblent dire la même chose que vous revendiquez, mais qu'est-ce qui pourrait être changé dès la rencontre que vous avez eue avec M. Denis Sassou Nguesso, mais aussi avec Alpha Condé?
On n'attend pas toute la solution, on attend une contribution. Vous savez qu'aujourd'hui, la RDC Congo n'est pas isolée. Il y a aussi un volet diplomatique dans la recherche de solutions. L'Église tente ce qu'il peut simplement parce qu'elle veut qu'on arrive à une solution. Dieu seul sait comment cela va réagir à notre demande.
Avant le 31 décembre, certains évêques n'ont pas permis qu'il y ait des manifestations dans leur diocèse, mais aussi, si on prend les chrétiens dans l'ensemble, il y a l'Église protestante, mais aussi les pasteurs évangélistes qui ne se sont pas associés à ces mouvements-là.
L'Église dénonce les attaques contre l'Église catholique. Le président, le vice-président de la CENCO, dénonce entre autres cette manipulation qui consiste à vouloir diviser la CENCO. Aucun évêque n'a condamné la marche, donc on ne vous trompe pas. On veut simplement manipuler les gens pour faire croire que l'Église est divisée. Par rapport aux autres confessions religieuses, écoutez, l'Église ne travaille pas en fonction d'eux, hein. Chacun a ses convictions. Les évêques observent le peuple congolais. Vous ne trouverez aucun évêque au Sénat, aucun évêque au Parlement, contrairement aux autres confessions qui ont des sénateurs, qui ont des députés. Ça signifie qu'ils brisent les postes politiques.
C'était l'abbé Donatien Chollet, porte-parole de la Conférence épiscopale nationale de la RDC à Kinshasa.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
Eh bien, en République centrafricaine, afflux massif des déplacés vers Paoua. La population a triplé en raison des déplacements dus aux affrontements entre groupes armés aux alentours de la ville. Les ressortissants de la région à Bangui montent au créneau. Freeman Sipila.
La région de Paoua s'enlise dans le chaos. Plus de 80 000 déplacés internes, 100 villages incendiés, une centaine de morts et d'énormes dégâts matériels. Le bilan est lourd selon le collectif des députés de Luampende. Timoléon Baïkoua, député de Paoua 2.
La population de Paoua et en particulier la population de Paoua 2 qui regroupe les quatre communes. Hein, commune de Babessar, commune de Miapende, commune de Bang et commune de Nanabaria. Cette population vit une tragédie depuis plus de 2-3 semaines. La population est en détresse totale parce que vous avez 60 000 populations qui se sont réfugiées à Paoua Centre. Vous avez déjà 10 000 qui a traversé pour aller au Tchad et à peu près 25 à 30 000 dans la brousse. Vous avez plus de centaines de villages brûlés. Vous avez les champs qui sont détruits, les bétails emportés. Vous avez des corps qui jalonnent même les routes sans que personne n'y prenne garde. C'est un désastre.
Les affrontements entre la Révolution Justice et les ex-sélecas du général Bahar, deux groupes rivaux, continuent d'affecter les différents villages. Anissé Georges Dologuilé, chef de l'opposition, craint une catastrophe humanitaire.
Ce que je veux dire, c'est que qu'il y a des questions humanitaires graves et urgentes en ce moment. Déjà, quand ils ont coalisé, c'était contre la population. Maintenant qu'ils se battent entre eux, c'est contre la population. Mais bon sang, finalement, il faudrait qu'un jour, ces groupes nous disent pourquoi ils portent des armes. Parce que les populations ne les empêchent pas de vivre. Mais eux, ils empêchent les populations de vivre.
Dépassées par l'ampleur des violences, les femmes ressortissantes de la région de Paoua à Bangui appellent les autorités à une action d'urgence afin de sauver des vies. Célestine Diber-Bekoy est la chargée de communication de leur collectif.
Au gouvernement, nous demandons très humblement l'accroissement de ces actions de retour de la paix. Ces groupes armés cessent de traumatiser la population, de maltraiter la population parce que c'est vrai. La politique de la terre brûlée, on chasse tout le monde n'a plus le droit de citer, c'est indescriptible.
La semaine dernière, les ministres de la Défense et de la Sécurité publique se sont rendus à Paoua pour s'enquérir de la situation. Selon le général Henri Wazé Lingisara, ministre de la Sécurité publique, les dispositions sont en cours pour assister la population en détresse.
La mission gouvernementale qui s'est dirigée sur les lieux a pu rencontrer les représentants des groupes armés qui étaient présents. On a échangé avec les autorités administratives. Les ONG sur place à Paoua nous ont confirmé qu'ils prenaient des dispositions pour l'assistance alimentaire de cette population. Le gouvernement est en train de prendre ses responsabilités par rapport à la population dans la ville de Paoua.
Les affrontements aux alentours de Paoua ont éclaté fin 2017 à la suite de l'assassinat de Raymond Belanga, leader d'une faction RJ, par les ex-Séléka. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Bangui, c'est sur 101.7 FM en République centrafricaine.
Au Gabon, la nouvelle constitution adoptée par le Congrès introduit un scrutin présidentiel à deux tours, mais ne limite pas le nombre de mandats à la tête de l'État. Autre nouveauté, c'est désormais le président de la République qui détermine la politique de la nation. Dans l'actuelle constitution, il le fait en concertation avec le gouvernement. Est-ce un progrès ou un recul? Yacouba Ouédraogo a joint le professeur Auguste Eyen Essono, analyste politique.
La démocratie est en régression. Les acquis que nous tenons de la conférence nationale de 1991 sont en train d'être sabordés.
Il est prévu que désormais, c'est le président seul qui détermine la politique de la nation, alors qu'auparavant, il le faisait en concertation avec le gouvernement. Il y a une sorte de renforcement du pouvoir du président de la République, bien sûr.
À travers ce projet, il y a une sorte d'hyper-présidentialisation de la gestion du pouvoir. Comme vous pouvez l'observer, plus on présidentialise la gestion du pouvoir dans un pays, moins la démocratie existe, moins elle est une réalité.
La nouvelle constitution introduit un scrutin présidentiel à deux tours désormais. C'est un souhait de l'opposition.
Oui, je vais être honnête avec vous, c'est une bonne nouvelle. Une élection à deux tours est une élection démocratique. Lorsqu'une élection n'est qu'à un tour, cela porte en soi un déficit de démocratie. Mais je dois rappeler que la constitution de 1991 prévoyait déjà une élection à deux tout. Et permettez quand même que je nuance moi-même mon enthousiasme, parce que le problème de ce pays, ce n'est pas la constitution. Le problème dans notre pays, c'est l'éducation des élites politiques.
Le professeur Auguste Eyen Essono, joint à Libreville. Yacouba Ouédraogo a également recueilli la réaction du porte-parole du gouvernement gabonais, Alain-Claude Béli Binze.
Jusqu'à cette modification, les élections politiques étaient à un tour à la majorité simple. Là maintenant, on revient à deux tours de scrutin, qu'il s'agisse de l'élection présidentielle ou des élections législatives. Donc c'est une avancée majeure. L'autre avancée, parce que la contestation a porté également sur la Cour constitutionnelle. La modification de la Constitution fixe maintenant le mandat des membres de la Cour à un mandat unique de 9 ans non renouvelable. Et de même que la composition de la Cour a été modifiée, désormais des personnalités issues du milieu du droit, qu'il s'agisse de professeurs de droit, avocats de la société civile pourront être membres de la Cour constitutionnelle. Ce sont des avancées significatives.
Il n'y a toujours pas de limitation du mandat présidentiel et désormais il est dit que c'est le président seul qui détermine la politique de la nation. Auparavant, il le faisait en concertation avec le gouvernement. Il y a une sorte de renforcement du pouvoir du président de la République.
Un exécutif a un chef, c'est le chef de l'État. Un exécutif n'a pas deux chefs.
Alors, l'opposition, elle, considère plutôt que cette nouvelle constitution consacre une sorte de monarchisation du pouvoir. Que lui répondez-vous?
Au Gabon, pour être président, il faut être candidat à une élection présidentielle. Et chacun peut ouvrir la compétition. Je ne ne vois pas où est la monarchisation. Il n'y a pas du tout au Gabon de dévolution du pouvoir de manière familiale. Le pouvoir, c'est par l'élection devant le peuple, par le suffrage universel. Je ne vois pas où est la monarchisation.
Alain-Claude Billy Binze, porte-parole du gouvernement gabonais.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Burkina Faso, poursuite des rapatriements volontaires de migrants burkinabés maltraités en Libye. Grâce au gouvernement et avec le soutien de l'Organisation internationale pour les migrations, c'est une quinzaine de burkinabés qui ont pu cette fois-ci regagner hier soir leur pays. Des détails avec notre correspondant à Ouagadougou, Issa Napo.
Le visage hagard, l'air fatigué, plus en raison de ce qu'ils ont vécu que par le voyage depuis la Libye, ils sont 19 Burkinabés à se faire rapatrier. Pour Issa, 25 ans, qui s'essayait à la maçonnerie, l'Eldorado rêvé s'est transformé en cauchemar.
Noir, quand ils sont comme ça pour aller au travail, quand tu vas aller travailler, ils vont te prendre. Les amis ne vont plus savoir où tu es. En venant même sur la route, en partant à l'aéroport, les polices même nous attaquaient sur la route. Ils ont fouillé nos sacs, ils ont enlevé des portables des gens, mais ils n'ont pas donné.
Un retour à la case départ, favorisé par le gouvernement burkinabé, avec le soutien de ses partenaires. Ce n'est pas une tâche facile, reconnaît la ministre déléguée en charge de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur, Evelyne Solange-Bogoré.
On les sensibilise. Il y en a qui décident de venir, et il y en a qui s'inscrivent et qui par la suite désistent. Faut-il aussi souligner qu'il faut pouvoir les localiser? Parce que l'ambassade fait beaucoup d'efforts pour aller vers nos ressortissants. Mais si vous n'arrivez pas à les localiser, parce que ce sont des gens qui bougent beaucoup, il y a une très forte mobilité. Et donc, il faut se réjouir du fait qu'on ait pu obtenir au moins ces retours volontaires.
Il y a près d'un an que Mohamed, 23 ans, est parti à Tripoli. Là-bas, les animaux seraient mieux traités que les Noirs, estime-t-il.
Nous, les Noirs, ils considèrent le troupeau mieux que nous-mêmes. Bon, des fois, toi-même, on te voit bon, sur la route, les Libyens t'attrapent, on t'emprisonne. On dit, tu n'as qu'à appeler bon, tes amis ou bien tes parents comme ça pour qu'ils te donnent l'argent. La famille n'a pas pour te donner. Ça fait bon, ils blessent des gens. Il y a parfois même des gens à cause de ça. Vraiment, mes frères et sœurs qui veulent aller en Libye, ils n'ont qu'à démissionner. Tu n'es pas pour souffrir. Tu peux partir aussi même sans revenir. On tire des gens parfois.
Leur réinsertion, a priori, devrait se faire sans accroc, à en croire la ministre déléguée. Ils ne seront pas délaissés, rassure Evelyne Solange-Bogoré.
La réinstallation et la réinsertion sont faites avec l'appui de nos partenaires, notamment l'OIM qui les assiste dans la réinstallation. Et cela se fait en fonction de ce qu'ils avaient comme occupation auparavant. Donc, on les accompagne pour qu'ils puissent se réinstaller et puis mener une activité et avoir une vie décente.
Depuis 2011, 1958, retour dont 1407 pour la seule année 2017 de Burkinabé en Libye ont pu être effectifs et les efforts dans ce sens sont appelés à se poursuivre. Issa Napo, Ouagadougou, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Bonjour, c'est Nicolas Pineau. Tous les lundis soirs, VOAAfrique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, rendez-vous en direct dans Sporama 19h, temps universel. Pour participer, c'est très simple, vous pouvez nous appeler en direct ou laisser vos commentaires et numéros de téléphone sur notre page Facebook. À très vite, sur le terrain de VOA Afrique.
Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Jimmy Cook. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.